Chapitre 10. À la ville comme à la Seine. C'était un homme hors série. Un de ces hommes qui vous coupent le souffle tant ils atteignent de perfection dans l'expression de leur art et au sujet desquels, faute de mots pour le dire, on utilise un vocabulaire parisien. Dément, fabuleux, incroyable, époustouflant, le pied, insensé, génial. Ces inepties et exagérations maladroites prouvent qu'on n'arrive même pas à la cheville de l'admiration qu'on porte à celui qu'on voudrait pouvoir encenser. C'était en somme un homme qui dérange, en obligeant chacun à mesurer ses étroites limites. Mais aussi un homme qui élève et transporte, pour peu qu'en arrivant au spectacle, on accepte de s'oublier soi-même en déposant son manteau au vestiaire, de même que les Japonais abandonnent leur poussière en laissant leurs oris à l'entrée de leur temple. En plus, il était beau, un visage aux traits bien inscrits et virils. Les yeux étaient intelligents, directs et insolents. Il semblait braver la vie et signifier aux autres. « Regardez bien en face, vous verrez comme tout est magnifique, absurde et dérisoire. » Parfois, il éclatait de rire tout seul, sans prendre personne à témoin, et son rire découvrait des dents superbes. Il était grand, musclé, un type fort, un héros. Une réussite totale au milieu du ratage quasi généralisé qu'offre le spectacle de la ville. Il semblait avoir été spécialement engendré en vue d'une exceptionnelle vocation. C'était un acteur shakespearien. Il manque toujours aux Français quelque chose pour être shakespearien, à moins qu'il n'ait en trop ce fameux cartésianisme dont ils sont si fiers et qui veut que tout soit passé au crible de la raison. Lui aimait l'irrationnel, l'inspiration, la folie. Mais il savait toujours, comme le conseille Hamlet, mettre l'action d'accord avec la parole et ne jamais violer la nature. Montrer à la vertu ses propres traits, à l'infamie sa propre image. Ce qui veut dire qu'il osait et savait être vrai. Il était aidé en cela par une tessiture vocale particulièrement étendue et travaillée, devenue si naturelle qu'on n'y décelait aucun artifice apparent. Il était capable, avec cette voix, d'être aussi tendre que sauvage. Il avait l'air de tout savoir, de tout comprendre, de tout souffrir, avec une simplicité bouleversante, une sincérité sans faille. Il évoluait avec aisance au milieu des situations les plus contradictoires. Quand il le fallait, il semblait posséder aussi le génie qui contemple d'en haut le destin misérable de la terre. C'était une bête de théâtre, un monstre sacré. Il s'appelait Cellier, Benjamin Cellier. Il était un bon fils. Les valeurs familiales avaient d'autant plus de prix pour lui que, très vite dévoré par le théâtre, il avait su qu'il pourrait difficilement créer sa propre famille et prolonger la race de ces Celliers-là. Il décida donc de garder son nom patronymique. Le contraire eût été une insulte à ceux qui avaient fait de lui cet homme qu'on disait unique. C'eût été aussi les déposséder de son succès, les déshériter en quelque sorte, ne pas les reconnaître. Car, par un mouvement naturel de transformation, plus il s'affirmait socialement, plus ses parents devenaient faibles. Lui était l'adulte, le chef du clan. Eux, ceux qu'on protège. Il était puérilement et gravement heureux de faire briller à l'affiche le nom de Benjamin Cellier, car Benjamin Cellier était aussi le nom de son père, et son père était sacré. Il aimait l'amour et les femmes, moins les femmes que l'amour. Comme il ne s'attachait qu'à l'exceptionnel, toutes celles pour qui il avait eu des passions avaient été suffisamment conscientes de leur valeur pour ne pas supporter longtemps la rivalité des autres ou celle du théâtre. Elles s'étaient plus aimées qu'elles ne l'avaient aimé. Courant à l'occasion deux lièvres à la fois, il s'était souvent retrouvé seul et prêt à de nouvelles conquêtes. Maintenant qu'il avait dépassé la cinquantaine, s'il faisait un rapide bilan de sa vie, il constatait, mais sans aucun regret, qu'il avait été asservi par les exigences et les horaires de sa profession. Désormais, il ne se laissait plus séduire que par la jeunesse. La réussite sociale de ses partenaires, leur beauté ou leur qualité d'esprit et de cœur lui étaient indifférentes. Et quoi de plus normal? De tout cela, il avait lui-même à revendre. En vérité, le secteur de sa vie qui concernait l'amour était, lui semblait-il, passé au second plan. Si on le désirait avec assez de constance, il ne résistait pas. C'était oui, mais aussi vraiment sans importance. Au moment où commence cette histoire, il vivait avec une petite Marinette, jeune actrice qui sortait d'un milieu simple et ne présentait aucune particularité éclatante. Son atout majeur était ses 25 ans. Très vite déçue dans son ambition de comédienne, elle avait reporté ses espoirs sur Benjamin. Elle avait parié en famille qu'elle l'aurait. Elle l'avait. Benjamin n'était pas dupe. Il la traitait avec gentillesse et tiédeur. Il était une sorte de père incestueux à l'égard d'une fille qu'il n'aurait pas souhaité avoir faite, qu'il ne désirait que très médiocrement. Un jour où il la regardait sans complaisance. « As-tu quelque chose à me dire ?» demanda-t-elle intéressée. Il pensa. « Oui,
en prison pour médiocrité. »
Il répondit de façon ambiguë. « J'avais mon terlan dans la tête. » Elle opina du chef en signe d'approbation. Monterland, c'était un grand homme. Elle considéra cette réponse, dont elle ne soupçonna pas la secrète cruauté, comme une marque de confiance. Il venait de lui prouver qu'elle aussi était du bâtiment. Un éclair diabolique fit briller l'œil de Benjamin. « Tiens, je m'amuse, pensa-t-il. Avec elle, ce n'est pas fréquent. » En effet, Benjamin s'ennuyait avec Marinette. Pourtant, elle ne le gênait pas. Il était si peu chez lui. Ils prenaient quelques repas ensemble. Il la voyait à peine une heure ou deux le matin. Puis, ces heures-là, il les consacrait à la lecture. Parfois, elle venait le chercher à la fin du spectacle, mais sans excès de zèle. Il la faisait vivre, elle aimait bien cela, et Benjamin subissait provisoirement sa présence. Ce n'était qu'un collage comme il en avait beaucoup vécu depuis que semblait révolue la période des grandes amours. 3 mois déjà. Ça faisait une éternité. Une éternité vide. Confort et habitude n'avaient aucun sens pour lui. Il était un chercheur, un vendeur d'illusions. Il regardait passer à travers lui les sentiments des hommes, de tous les hommes qu'il incarnait. Il en était le témoin et le maître. Et il ne s'intéressait plus que très médiocrement à Benjamin Cellier, qu'il situait vaguement dans la foule de tous les jours. Ce qui avait de l'importance, ce n'était pas un bonheur et une quiétude qui lui auraient été propres. C'était la diversité, le morcellement, l'éclatement de ses personnages à travers lui-même. Sa quiétude et son bonheur résidait dans l'éternelle surprise que le métier lui réservait. Cela faisait de lui un homme difficile à vivre, un mécréant sans foi ni loi, un comédien, un type qui ment aux autres. En réalité, c'était les autres qui s'inventaient des Benjamin Cellier à leur convenance, qui se fiaient aux apparences qu'il leur proposait. Car Benjamin ne mentait à personne, surtout pas à lui-même. De lui, il voyait tout, il savait tout. Il était sans méchanceté aucune. Il aimait trop examiner de près les mécanismes qui font agir les hommes pour être méchant. Il était compréhensif, généreux, sans l'ombre de fanatisme. Il avait de nombreux amis. Il aimait parler et pousser jusqu'à l'absurde des idées qui allaient à l'encontre de celles qui sont généralement reçues. Au cours des discussions, il écoutait monter le ton, regardait s'enflammer les cervelles. Il n'attachait pas plus d'importance à ses théories qu'il ne méprisait celles des autres. Il était libre de ce fatras inutile, ce bruit et cette fureur. Un matin, alors qu'il beurrait religieusement sa tartine grillée, il aimait officier autour du petit-déjeuner comme s'il se fût agi d'un rite essentiel. Il laissa tomber négligemment à l'intention de Marinette. « Qu'est-ce que tu fais avec moi ?» En réalité, il s'interrogeait. « Qu'est-ce que je fais avec elle ?» « Ça, par exemple, je t'aime !» Il laissa s'étendre entre eux un silence. Le couteau engraissa la tartine d'une nouvelle couche de beurre. Marinette était sur ses gardes. « Bon, finit-il par dire, admettons. « Tu en as de bonnes !»« Marinette, j'ai horreur du mensonge. Moi, je ne t'ai jamais raconté d'histoire. »« Je sais, tu es assez mufle. »« Aujourd'hui, eh bien... » Que je sois de très bonne humeur, je vais l'être encore davantage. Voilà, je dois en toute honnêteté te dire que je m'ennuie avec toi et que je vais te demander de rentrer chez ta maman. » « Ah non !» cria-t-elle avec violence. Elle attrapa son bol de thé encore plein et l'envoya valser dans la pièce. « Quel sale type !» Benjamin regarda le bol cassé. Le thé imbibait la moquette. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» cria Marinette en s'accrochant à la manche de la robe de chambre qu'il portait. « Que peux-tu me reprocher ? Rien ! Je suis là, je t'attends, je passe mon temps à t'attendre, à me barber pendant que tu travailles, je m'ennuie, et plus que toi, j'en ai marre d'un amant comme toi, qui ne pense qu'à lui, à son théâtre, à son succès. J'en ai marre de ta tête qui me regarde sans broncher. Tu crois que tu m'intimides ? Mais dis-moi ce que je t'ai fait !» Elle perdait complètement la face. Il était le spectateur indifférent de son stupide désarroi. Elle se mit à jouer la carte du désespoir. Benjamin eut l'impression qu'elle était secouée de subites et violentes coliques. Elle venait de lâcher la proie passive de la manche de sa robe de chambre pour s'attraper le ventre à deux mains. « Tu es une vraie vache » cria-t-elle. « Un salaud, un macho ! Rentrez chez ma maman ! Tu te fous de moi ?» Elle pleurait maintenant, sans qu'il sût si c'était de rage ou de chagrin. Son rimel déteignait autour de ses yeux et se mit à inonder ses joues d'une marée noire. « Elle est vraiment vulgaire, » pensa Benjamin. « Quelle idée j'ai eue de m'aventurer avec elle !» Marinette, déconcertée par le silence dans lequel s'enfonçaient ses injures, se mit à arpenter la pièce. « J'ai jamais vu ça ! En v'là une façon de vous dire les choses ! Quel salaud ! Quel salaud !» Elle jouait maintenant la scène pour elle toute seule, avec des modulations qu'elle voulait diverses. Benjamin, la voyant gesticuler, pensa « Aucun talent !» Il se leva, la prit par les épaules, la fit doucement tourner sur elle-même et commença à la mener sans hâte vers la porte. « Sors, » dit-il sans élever la voix. « Finissons-en très vite. C'est mieux ainsi. Ce soir, tu auras toutes tes petites affaires. Elles seront déposées au domicile de ta mère. « Calme-toi, » ajouta-t-il en lui posant un baiser sur le front. Elle avait à peine résisté et se retrouva sur le palier. Quand elle eut un peu retrouvé ses esprits, elle se mit à taper avec ses poings, puis à sonner, puis à taper encore contre la porte. « Ouvre » criait-elle, « ouvre ! Laisse-moi moi prendre mon sac et mon manteau !» Il pensa, « C'est vrai, j'ai oublié ça. » Et il ouvrit. « J'ai jamais vu ça » répétait-elle. « Non, mais quel sale type ! Et vieux ! Tu es vieux ! Et en plus, tu ne fais même pas bien l'amour !» Elle lui avait craché cela au visage. Il lui mit son sac et son manteau sur le bras. J'ai droit à la suprême injure, se dit-il. Si tu savais comme je m'en moque. L'amour, c'est en scène que je le fais. Et là, je le fais de mieux en mieux. Plus je vieillis et mieux ça marche. Et on sait très bien m'en remercier. Vraiment, tout ça était ridicule. Marinette, une seconde fois reconduite doucement, repassa la porte. Il la rassura encore. « Ne t'inquiète pas. Tout, on te reportera tout ce soir. » Il referma la porte derrière elle. Elle s'effondra sur la marche palière et, la tête dans les mains, recroquevillée sur ses genoux, continua à verser des larmes mélangées. Rimmel, rage, impuissance et chagrin. Une grande période de crise venait de commencer pour Benjamin. Il décrocha son téléphone et appela Sun. Sun était cambodgien. Il avait fui la montée sanglante des Khmers rouges. Employé dans une épicerie de luxe, il venait souvent livrer chez Benjamin. Il n'était pas beau, Sun. Il avait un museau écrasé de King Charles, mais d'une couleur ensoleillée qu'éclairait un sourire ouvert sur des dents d'un surprenant blanc-bleu. Benjamin n'avait jamais vu de dents pareilles. Sun lui avait tout de suite plu. Il l'avait fait parler et avait appris qu'au Cambodge, il poursuivait des études en médecine. Il était en troisième année quand il avait trouvé bon de changer d'horizon. Benjamin l'avait encouragé. « Continuez dans cette voie. Je n'ai pas d'argent pour cela, et mes trois années ne sont pas homologuées en France. Il faudrait recommencer à zéro. Ce sont trois années perdues. » Et il avait ajouté avec un accent d'inimitable bonté. « Je voudrais tant faire quelque chose pour les hommes. » Une impulsion avait subitement traversé Benjamin. Une sorte de pirouette un peu absurde pour éluder une émotion véritable. Il dit « C'est difficile de circuler dans Paris. Aidez les hommes à cela. Devenez chauffeur de taxi. Vous gagnerez bien votre vie et ce sera plus amusant que les livraisons. » Benjamin détestait la voiture. Il ajouta « J'avais l'intention de me séparer de ma Citroën. Je vous la donne, Sam, et je vous avance l'argent nécessaire pour prendre une licence de taxi. Vous me rembourserez quand vous serez à flot. En retour, je vous demanderai de venir me chercher pour me conduire au théâtre et me ramener chez moi. » Ils avaient conclu leur marché et Cellier avait maintenant, depuis plus d'un an, un chauffeur personnel qui le promenait dans sa propre voiture et qui se serait jeté au feu comme un bonze si cela avait pu lui rendre service. Les affaires de San prospéraient. Il disposait maintenant d'une chambre avec le téléphone. Marine était expédiée, Benjamin avait donc composé le numéro. « Allô, San, c'est Benjamin. J'ai besoin de toi pour quelque chose d'imprévu. »« Bien, monsieur Cellier. Quand tu m'auras conduit au théâtre, tu iras dans le 15e. Tu vois ?»« Oui, monsieur Cellier. Je te donnerai l'adresse exacte et t'expliquerai. C'est pour porter à Marinette 2 ou 3 valises. »« Oui, monsieur Cellier. »« Viens me prendre à 6 heures. »« Bien, monsieur Cellier. »« Celui-là, il est en or, » pensa Benjamin. Il chercha l'adresse de Marinette. « Tiens, » dit-il, « rue du théâtre. » C'est ça qui a dû l'amener à croire qu'elle avait la vocation. Mais il n'avait pas très envie de plaisanter. Il sortit ses valises et commença à vider la penderie. Il n'était pas satisfait de lui-même. « Tu viens de faire souffrir un être, Cellier. Et par indifférence, tu t'es fourré sans y prendre garde dans de sales draps. Voilà 3 mois. Oui, dans de sales draps. » Il empilait des foulards, des pulls, des petites robes, du linge à dentelle. « Je l'ai un peu gâté quand même, » se dit-il pour se rassurer. Mais quel gâchis! Plus jamais cela, Cellier. Plus jamais. Tu es à l'âge où, s'il le faut, tu dois supporter, sinon chérir ta solitude. Je t'interdis à l'avenir les faux semblants qui entraînent. Tu vois à quoi? Il voyait très bien. Devant, derrière, au fond, autour de lui, le dégoût. Le dégoût partout. Et c'était insupportable. Il farfouillait dans les tiroirs, empilait des collants de nylon, des objets de toilette, une trousse à ongles. Il était triste. Et mortifié d'avoir failli à l'idée qu'il avait de sa dignité d'homme. Il finit par s'asseoir sur le bord du lit, submergé par le sentiment de sa propre médiocrité. Quand Sam arriva, à l'heure dite, Benjamin avait eu le temps de se ressaisir et de faire le point. La conclusion de son inventaire moral fut ce constat navrant et simple. La condition humaine est ainsi faite. L'important est de ne pas se monter le bonnet et d'être assez honnête pour oser se l'avouer. Après quoi, il avait programmé au répondeur. « N'essayez pas de me joindre, je n'y suis pour personne. Si vous avez quelque chose d'important à me dire, écrivez-le-moi, je vous répondrai. Merci. » Il venait de procéder de façon impulsive. Il sentait qu'il était sur le point de prendre une décision, mais il ne savait pas laquelle. À 6 heures précises, San arriva avec le sourire. « Tu es gentil et rudement bien à l'heure. Les bagages sont prêts. Tu lui diras de garder les valises. » Il lui glissa dans la main un petit papier où l'avait inscrit l'adresse de Marinette. San le déposa au théâtre, au moment où il allait descendre. « C'est elle qui est partie ?» interrogea San. « Non, c'est moi qui lui ai dit au revoir. »« Dommage, » fit San. Il riait gaiement. Son sourire blanc-bleu était vraiment une fête. Et il ajouta en copain connaisseur. « Elle était mignonne !» Benjamin faillit lui dire. « Console-la !» Mais il se mordit les lèvres. Elle serait capable de l'humilier. Il fit à San un geste amical de la main et lui recommanda de revenir le prendre à 12h15. Oui, monsieur Cellier. Il fut heureux d'arriver au théâtre. Là, il n'était plus lui-même. Il était un grand acteur, un homme qui oublie les banalités journalières, un homme prêt à se battre pour défendre des textes difficiles, un homme comblé. Il entra dans sa loge et s'y enferma. Il se dirigea vers son secrétaire, se saisit d'un stylo, d'une rame de papier et écrivit. « Mon cher ami, vous serez surpris par ma lettre, mais je prends une soudaine et indispensable décision, celle de me taire pendant 3 mois. Je m'accorde 10 mots par jour, pas un de plus. D'ici là, venez me voir au théâtre. J'espère ne pas vous y décevoir. En toute amitié. » Il data. Comme pour le répondeur, il avait agi sans réflexion. Une nécessité impérieuse avait guidé sa main. Au moment où il allait reproduire ce spécimen à 30 d'exemplaires, il déchira l'original. « C'est ridicule. Ils verront bien, » pensa-t-il. Puis il se plongea dans l'étude de Macbeth qu'il allait répéter la semaine suivante. Quand il se présenta à la première répétition, tout le monde naturellement était au courant du mutisme où Benjamin s'était enfermé. On avait fait de nombreux commentaires du type « Il est complètement timbré, on ne lui tire plus un mot, c'est pour le coup qu'il va travailler dans le génie. » Il salua la cantonade, serra les mains. Il était heureux comme jamais. Depuis 8 jours que durait, comme il l'appelait, sa claustration séculière, il ne cessait de s'en réjouir. Plus de téléphone. Celui-ci sonnait sans arrêt, mais le répondeur faisait son office, et comme c'était un répondeur filtreur, il entendait tout ce qu'on lui disait, prenait en note ce qui méritait une réponse, réponse qu'il s'empressait d'écrire brièvement, mais il ne perdait plus de temps en considérations oiseuses. Il avait prévenu San, l'inséparable, l'inestimable San, et celui-ci, impavide, avait dit « Eh bien, monsieur Cellier !» Benjamin eut peu à peu, et chaque jour davantage, l'impression rassurante de vivre dans une coquille. Il était enveloppé par sa maison de silence. Il n'avait plus aucune dispersion d'énergie et se sentait étonnamment fort. Les répétitions commençaient. Le metteur en scène, qui s'appelait Raoul, parlait pour 2, parlait pour 4. Benjamin prenait scrupuleusement ses places et, isolé dans sa confrontation avec son personnage, faisait pour lui-même son travail intérieur. En rentrant chez lui, il pensait souvent « Quel bonheur de répéter sans confier à quiconque les difficultés de gestation !» Il semble même que celles-ci s'en trouvent éliminées. Il travaillait en effet avec une très grande facilité. Raoul, qui était jeune, pensait qu'avec Benjamin, tout était trop simple. Ce diable de Cellier allait invariablement au-devant de ses intentions. 3 mots de commentaire, Benjamin opinait du chef, et les 3 mots engendraient des richesses que Raoul n'avait pas imaginées. Raoul se lança dans l'interminable discours. Assis, genoux écartés, coudes appuyés sur les cuisses, tête enfoncée dans les épaules, Benjamin laissait passer le flot. Il fermait les yeux, attendant que celui-ci s'évapore dans les cintres. Quand les mots s'arrêtaient, Cellier instantanément était debout, reprenait la situation en cours et, avec vigueur, brassait son texte. Raoul, après les répétitions, faisait quelques remarques. Bien sûr, c'était intéressant d'avoir affaire à une bête de théâtre pareille. Mais parler, n'est-ce pas, était nécessaire. S'expliquer, se comprendre. Le travail risquait sans cela d'être superficiel. Il fallait creuser et creuser ensemble. Benjamin, fidèle à lui-même, se taisait toujours. Raoul se mit à harceler tous ceux qui gravitaient autour de Benjamin. Lady Macbeth devint une sorte de martyr. Mais c'était Cellier qu'il voulait avoir, qu'il voulait séduire, réduire, traquer, étriper. Lui, pas un autre. Quand on commença à placer la scène de la folie, Cellier, dit gravement Raoul, alors ça, c'est un sommet. Je voudrais quelque chose de particulièrement terrible. Vous allez vous glisser sous la table, entre les jambes des convives, vous tordre par terre. Allez-y, essayons. Benjamin, son texte à la main, rampa. Il se sentit si profondément ridicule que, brandissant la brochure, il se mit à hurler soudain de son admirable voix qui couvrait au moins 3 octaves. « Dites donc, mon vieux, vous ne voulez pas aussi que... » Il s'arrêta brusquement. Il avait dit les 10 mots qu'il s'accordait par jour. Il tint sa langue. Grâce à son silence, sa colère tomba comme un château de cartes et il quitta la scène pendant que les commentaires allaient leur train. Le lendemain, Raoul revint à la charge. « Je vous assure, Cellier, ce que je vous ai demandé hier pourrait être superbe. Essayez sans mauvaise volonté. Vous avez des a priori. Mais moi, je sais que vous pouvez tout faire et que vous ferez ça comme le reste, admirablement. » Cellier rampa de nouveau sous la table. « Arrière, ôte-toi de ma vue, que la terre te cache !» Il tournait sur lui-même, heurtant les jambes des convives terrifiés. « Tes os sont ma moelle, ton sang est glacé, tu n'as pas de regard dans ces yeux qui éblouissent. » « ça vient !» criait Raoul en transe. Lady Macbeth donna sa réplique. Benjamin reprit. « Tout ce qu'ose un homme, je l'ose !» Pour lui, il commenta. « En effet. Approche sous la figure de l'ours velu de Russie, du rhinocéros armé ou du tigre d'Hyrcanie. Prends toute autre forme que celle-ci, et mes nerfs impassibles ne trembleront pas. « Je t'en fous, » pensait Benjamin. « Je tremble de me faire emboîter. » quand il arriva à « Hors d'ici, ombre horrible ! Moqueuse illusion ! Hors d'ici !» Il fut saisi d'une telle impression d'inutilité grotesque qu'il sortit brusquement de sa niche, émergea comme un géant, laissa tomber la brochure sur la table et lâcha posément. Cette mise en scène est une pitoyable merde. Puis il se dirigea vers la coulisse et sortit. Raoul alla trouver le directeur. « je sais, » dit celui-ci avec philosophie. « Célier est un homme difficile, mais il faut le laisser agir à sa guise. Pour tout le reste, vous avez carte blanche, mon cher ami. Mais laissez faire Célier. C'est un acteur inégalable qui a un instinct fantastique. C'est lui qui sauvera vos meubles si par malheur vous vous êtes trompé. « Ce que je ne pense pas devoir craindre, » dit-il en manière de conclusion courtoise. Le soir même, sur son répondeur, Benjamin entendit. « Célier, c'est moi, Raoul. J'ai beaucoup réfléchi pour la scène qui nous tourmente. En effet, on a souvent vu les acteurs par terre ces derniers temps. J'ai trouvé quelque chose de moins... de plus simple. » C'est donc debout que Benjamin continua à assurer ses répétitions. Et il eut un triomphe sans précédent le soir de la première. La salle était debout, elle aussi. Elle le rappelait à l'infini, refusant de le laisser partir. Quand il regagna la coulisse, la foule se déversait dans les couloirs qui jouxtaient la scène. C'était l'ambiance du théâtre des grands soirs. Célier fut entouré de toutes parts. Il accepta les hommages en les payant de son beau sourire. Il serra des mains, répondit oui ou non de la tête aux questions qu'on lui posait. Précédé par Sam, son tout petit garde du corps qui, énergique et poli, lui frayait un chemin, il arriva sur les premières marches de l'escalier qui conduisait aux loges. Là, dominant l'assistance, il mit ses deux mains sur son cœur. Puis il les brandit devant lui, les secouant avec chaleur, comme un champion heureux, et, tournant les talons, il gravit les marches 4 à 4. Il s'engouffra dans sa loge et lâcha laconiquement à l'intention de l'habilleuse. Personne. Celle-ci sortit, et tout émue, fit ce parfait et gracieux discours. « Monsieur Célier est épuisé. Il vous prie de bien vouloir l'excuser. Il ne peut recevoir. Il doit assurer les spectacles des jours suivants. » Les admirateurs applaudirent, et Benjamin se démaquilla en paix. Lorsque Sam le déposa le lendemain au théâtre, une jeune femme l'aborda. « Pardonnez-moi, monsieur Célier. Hier, j'étais parmi ceux qui souhaitaient vous voir après le spectacle. On nous a dit que vous étiez souffrant. Je voulais savoir si vous alliez mieux. » Il fit oui de la tête. Elle lui emboîta le pas. « J'ai tant d'admiration pour vous. Je vous connais depuis si longtemps. Je vous ai vu dans tous vos rôles, et plusieurs fois. Mais je n'ai jamais osé me manifester. Pourtant, hier, c'était prodigieux. Vous avez si étonnamment mûri. » Un léger voile passa sur le front de Benjamin. Comme si elle le sentait, elle rectifia. « Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? J'ai dit mûri, non pas vieilli. » Il se sentit rassuré. Elle continua. « J'étais si heureuse de cet enthousiasme, de ce délire autour de moi. Je n'étais pas la seule à penser que vous étiez un phénomène exceptionnel. Alors, je n'ai pas pu résister. Je suis passée dans les couloirs. Vous savez, je suis agrégée d'anglais et j'enseigne. Pour moi, Shakespeare, c'est le prodige. Et si peu d'acteurs sont capables de l'interpréter avec votre envergure. Vous êtes un homme unique, et c'est une chance inestimable d'être là, à Paris, en même temps que vous, au même moment du monde. » Elle s'exaltait gentiment pendant qu'il continuait d'un bon pas son chemin vers la loge. Ils arrivèrent à la porte au moment où elle terminait. Il lui dit « Merci beaucoup ». Il venait de griller 2 mots banals avec elle, mais son enthousiasme d'admiratrice ancienne valait bien ce petit sacrifice. Il ajouta en prime un superbe sourire. Comme elle lui tendait la main, il la regarda enfin. Elle était ravissante. Elle avait environ 40 ans, mais elle faisait très jeune, une sorte d'ingénuité enfantine émanée d'elle. Ses cheveux, coupés courts, encadraient d'une masse drue et blonde un visage rose joliment dessiné où brillaient des yeux bruns, chauds et tendres. « Des yeux de méditerranéenne, » pensa-t-il. D'où sort-elle ? Elle est jolie, cette petite femme. « Puis-je venir vous parler un jour ?» Il écarta les bras de manière dubitative. « Oui, je sais, vous êtes très sollicité, mais j'aimerais que nous échangions quelques points de vue sur notre passion commune. » Benjamin, embarrassé, la fixait sans rien dire. « Je ne voudrais pas être indiscrète. J'aimerais tant vous connaître mieux. » Il dit « Revenez. » Ouvrit la porte de sa loge et s'y cloîtra. Dans un cas comme celui-là, le contrat de mutisme passé avec lui-même n'était pas facile à respecter. Il entendit frapper doucement. Il se dit que c'était encore elle et ouvrit. En effet, les yeux bruns sous les cheveux blonds accueillirent sa réapparition avec une confiance joyeuse. « Je tiens à me présenter à vous, dit-elle. Je m'appelle Marie, Marie Brodel. » Elle semblait avoir voulu lui faire un cadeau. Il approuva son initiative en la gratifiant d'un merci chaleureux. Il avait dépensé 4 mots en tout pour ne rien lui dire. Il s'allongea sur son divan, la brochure de Macbeth en main. Marie repartit chez elle d'un pas léger. Elle était heureuse de ce premier contact. Elle pensait vaguement qu'il était un peu ours, mais c'était un être à part dont on ne discute pas le comportement. C'était un grand homme. Elle revint chaque soir dans la salle, mais se fixa à une semaine le droit de recommencer à l'importuner. La semaine écoulée, il la trouva devant la porte de sa loge. Il lui sourit et lui tendit la main. « Savez-vous que je viens vous voir tous les soirs? Je suis folle de ce que vous faites. Et ainsi, je vois nombre de nuances nouvelles qui se glissent dans votre jeu. Est-ce que les événements du jour peuvent modifier celui-ci ? » « Oui, c'est bien ce que j'imaginais. Pour nous autres enseignants, c'est un peu la même chose. » La porte de la loge était ouverte. Il lui fit signe d'entrer. Il était manifeste qu'elle était partie pour les confidences. Il lui montra un siège. « Ainsi, quand j'ai perdu mon petit garçon, » dit-elle en s'asseyant. Elle se tut. Il inclina la tête sur le côté, et cela voulait dire clairement. « Continuez. » « Oui. » « J'ai perdu un petit garçon, il y a 10 ans, d'une leucémie. Après cela, tout est devenu difficile. Je ne supportais plus mon mari. L'homme de ma vie, c'était cet enfant que je cherchais partout, à travers tous les visages. Maintenant encore, cela m'arrive. Il avait votre nom. » Elle baissa la tête et Benjamin se sentit fondre. Elle avait raconté son histoire si simplement, avec une telle distinction sage. Il la fit lever en lui prenant la main et lui dit. À bientôt. Merci, merci, répondit-elle. Je savais que vous comprendriez. Vous avez un si vaste cœur. Sur le chemin du retour, Marie se rassurait. Il fallait bien que je lui dise un jour. Je le vois depuis si longtemps. Il fallait bien que cela sorte. Et elle pensa qu'il était particulièrement silencieux, mais aussi délicieusement délicat. Elle revint chaque soir le voir jouer Macbeth. Et l'image de Benjamin s'installa sans scrupule, en gros plan, dans sa vie. Elle attendit 15 jours pour reparaître en sa présence. Il était déjà dans sa loge et commençait son maquillage quand elle frappa. Il dit « Entrez !» Il la vit tout essoufflée. Elle eut l'impression qu'elle se jetait à l'eau. Il constata qu'elle se jetait à sa tête. « Benjamin, je ne suis plus Marie. Je suis toi maintenant, » répondit-elle. Une idée joyeuse traversa alors l'esprit de Benjamin. En se dressant sur elle, il dit « Puisque tu es moi, je te parlerai comme à moi-même. À l'égard des autres, rien ne sera changé. Nous avons plus d'un mois devant nous. Un long mois de totale solitude, Marie. Un mois de lune de miel sans importance. » Il la serra dans ses bras. Chacun était encore si totalement fondu au plaisir de l'autre que Benjamin doucement murmura. « Tu es tellement lié à ma vie et à mon âme que, comme l'astre qui ne peut se mouvoir que dans sa sphère, je ne peux me mouvoir que par toi. » Et cette fois, il n'eut pas du tout envie de rire. Shakespeare avait raison. Ce fut pour Benjamin d'une superbe évidence. Cela brilla dans son ciel comme une révélation. À la ville, comme à la Seine, Shakespeare avait raison. À la ville, comme à la Seine, Shakespeare était sa vérité. C'est souvent à travers nos textes que, comme Benjamin, nous retrouvons avec surprise nos vérités enfouies. Les auteurs familiers éclairent notre route d'un jour qui n'est pas exclusivement celui de notre quotidien. L'admiration qu'on leur voue, la pratique qu'on acquiert de leurs pensées, jouent un rôle de filtre magique. Cela presque à notre insu. Des formations professionnelles, mais des formations bénéfiques. Cet aspect du métier est particulièrement sensible dans le temps où, coupés du monde, nous nous retrouvons dans notre loge. C'est sans doute la raison pour laquelle j'ai donné à la loge de Benjamin un rôle important dans son silencieux roman d'amour. Nous sommes très favorisés au théâtre français, car nous y disposons d'un univers bien à nous, que nous avons le temps d'assimiler et d'enrichir longuement. Presque tous, nous aimons, comme Benjamin, nous engloutir dans le ventre protecteur de notre loge et travailler à notre renaissance nocturne, seul, en paix. La loge est un asile, une sorte d'oratoire où on ne pense qu'au théâtre, où on ne parle que de théâtre, où la fiction l'emporte sur les contingences de la vie journalière devenues absurdes, où rien n'entrave notre reconstruction de nous-mêmes à travers la force d'un personnage, à moins que, le personnage étant mince, ce ne soit à travers la beauté du spectacle auquel nous participons. Nous jouissons là d'une sorte d'impunité qui couvre tous les secteurs de la vie. Fuite hors du monde et du temps, fuite devant l'image de nous-mêmes que ceci nous impose, le repli dans la loge nous met entre parenthèses, nous offre une trêve. Tout y est symbole, souvenir ou superstition. Certains en font un séjour ascétique, où rien n'appelle l'attention. D'autres veulent au contraire y trouver une chaleur affective, et mille petits cadeaux offerts les soirs de général l'encombrent. Des télégrammes, gages d'amitié ou d'amour, sont épinglés au mur. D'autres s'entourent de leur propre image photographiée dans des personnages qu'ils ont interprétés, et, se voyant dans ces miroirs qui magnifient ou ridiculisent, s'amusent d'eux-mêmes, s'en étonnent, essaient de s'accepter. Quelques-uns y sont comme en transit, refusent de s'installer tant ils ont peur qu'on les enchasse, mais laissent au désordre la charge d'y entasser ce qu'ils aiment le plus, les brochures et les livres. Les incurablement nostalgiques du foyer en font un lieu intime, qui, tel qu'il est, pourrait s'intégrer à leur appartement, à quelques nuances puériles près. Et c'est mon cas. Pendant les 40 ans vécus rue de Richelieu, j'ai passé dans ma loge de grands moments solitaires et besogneux, la gestation d'un personnage faisant partie de notre activité. Là, j'étais réchauffée par le contact du théâtre, lui-même étroitement imbriqué dans la ville, tous deux m'envoyant leurs échos. Et j'étais heureuse de ma réclusion parce qu'elle était plénitude. Alors que je vous racontais les troubles affectifs de Benjamin dans la période si difficile où il se consacre à son personnage de Macbeth, des souvenirs de tribulations personnelles survenues avant certaines générales se sont naturellement imposés à moi. Parmi ces souvenirs, dont certains sont pénibles, j'ai fait un choix que j'ai voulu joyeux. Les affres de l'aphonie vous donnera un compte-rendu absolument véridique de ce qui a précédé la sortie de « La station Chambaudet » de La Biche. La morale que je me permets de tirer de mon histoire, avant que vous ne l'ayez lue, est qu'une catastrophe frôlée de près peut vous conduire au succès si vous acceptez pour allié la patience et l'humour.